Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et merci de suivre Radio de la Paix, les 96.0 FM à Abidjan et ses environs. À la une de ce 7 heures, les enjeux économiques du retrait des pays de l'AES et de la CEDEAO et formuler des propositions pour la résilience de la Côte d'Ivoire étaient les objectifs d'un forum du Centre d'études prospectives tenu vendredi. Interdiction de fabrication et commercialisation des produits azotés et dérivés. On aura les explications du docteur Guesson sur les raisons de cette décision. En page internationale, on reviendra sur le sujet de la réforme du franc CFA au Sénégal, où l'économiste sénégalais Al-Mounir Ndiaye explique que battre la monnaie est fondamental pour le Sénégal afin de prendre son envol vers la souveraineté. Et puis la revue des titres de ce jour sera assurée par Jean-Mélène Bitti avec Jean-Claude Comé, l'invité de la rédaction, professeur Bamba Abdoulaye, enseignant en histoire des relations internationales, expliquera les implications du nouveau conflit entre Israël et l'Iran qui a lancé le week-end dernier plus de 300 drones et missiles contre le territoire israélien. Ce sera en toute fin de ce journal. Le cinquième club prospective du Centre d'études prospectives s'est tenu vendredi dernier à Abidjan autour du thème « Retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Quelles conséquences politiques, économiques et humanitaires pour les États de l'AES et de la CEDEAO ?» L'objectif de cette édition du club prospective du CEP visait à appréhender les enjeux du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO et de formuler des propositions. On fait le point de ce panel avec Jean-Claude Mabéa.
Les pays membres de l'AES qui ont décidé de quitter la CEDEAO ont énormément de relations tant économiques et humaines avec la Côte d'Ivoire, d'où ces propositions du professeur Lambert Ngaladio Bamba, expert économiste au CIRES.
L'idéal, c'est qu'on puisse aller à une sorte de négociation pour que leur sortie ne devienne pas effective. Sinon, si elle devenait effective, ce serait aussi bien dommageable pour eux que pour nous. Mais en tant qu'économistes, nous savons qu'il y a des capacités de résilience. Donc, quel que soit le scénario final, on finira toujours par s'adapter sur le plan économique.
C'est de leur droit de décider de leur avenir, mais il s'agira pour la Côte d'Ivoire de réduire sa dépendance des pays de l'AES, estime Dr Sylvain Nguessan, expert en géopolitique.
C'est de terminer le port sec de Ferke, de l'enrichir, vraiment de le sécuriser. Deuxième chose, nous aussi chercher à avoir une autonomie à l'interne au niveau de la production du bétail et de certains produits. Nous sommes dépendants de ces pays-là. Il faut chercher à améliorer la production interne.
La diplomate Fanta Cissé, représentante résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, a émis un vœu au terme de ce forum d'échange.
Nous espérons que ces pays ne vont pas partir définitivement de la CEDEAO parce que ce sont des pays frères. Et l'intérêt pour nous, c'est de réaliser cette intégration régionale tant souhaitée par les chefs d'État et surtout faciliter ces échanges intracommunautaires entre nos pays.
Elle a souhaité que de telles initiatives se poursuivent afin de renforcer l'intégration régionale.
Et puis comme nous le savons tous, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont décidé le 28 janvier dernier de quitter la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En plus d'avoir des incidences au plan économique, cette décision aura des répercussions sur la production animale et halieutique de la Côte d'Ivoire qui dépend en grande partie de ces trois États membres. Que fait donc l'État ivoirien pour réduire cette trop grande dépendance à l'AES, aux États membres de l'AES, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, répond.
Quelques indicateurs relatifs à notre dépendance sur la production animale essentiellement dans notre contexte sous-régional. Toutes spéculations confondues, nous ne produisons qu'à peine 40% de ce que nous consommons en production animale. Sur les produits laitiers, c'est à peine 86% de ce que nous consommons, c'est énorme. Parlons uniquement de la production animale. Aujourd'hui, nous avons décidé, avec l'accord du président de la République et sur les instructions du Premier ministre, de réhabiliter nos anciens ranches cétacées. l'ancien et fameux projet Sodepra. Et aujourd'hui, à Bungali, nous avons lancé un dispositif de près de 10 000 hectares que nous avons dédié désormais à la production et à l'amélioration génétique pour la production de bétail avec un centre d'application pour accompagner les jeunes et les femmes qui veulent se lancer mais qui sont déjà dans le secteur de la production animale au niveau de Bungali à Pania. Pour ce qui est de Wangolo, nous avions aussi là-bas 2500 hectares pour la production animalière que nous avons dédié à l'amélioration génétique pour le lait au niveau de Pania à Wangolo. Et Badika, que nous avons 55 000 hectares là-bas qui étaient destinés à la production d'aliments ou bétail et que nous allons réhabiliter à l'effet de produire de l'aliment pour le bétail. Tout cela reprend une démarche cohérente qui vise notamment à trouver les ressources structurelles d'accompagnement et l'augmentation de la production interne pour faire face à nos besoins de consommation.
À l'instant, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, qui s'exprimait le vendredi dernier lors du 5e club prospective du Centre d'études prospectives. Parlons réchauffement climatique à présent avec le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Konan, qui a appelé les populations à une conscience éco-citoyenne afin de lutter contre les émissions des gaz à effet de serre, la pollution ou encore l'érosion côtière. Le ministre s'exprimait dans le cadre du Gouv Talk, rendez-vous d'échange en ligne initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. C'était le jeudi dernier à Abidjan. Écoutons à ce sujet le ministre Jacques Assaoré Konan.
La lutte contre la pollution est une affaire de tous. Ce n'est pas qu'une affaire seulement du gouvernement. C'est vrai qu'il y a un ministère de l'Environnement qui est en charge de cette problématique, mais chacun doit jouer son rôle. Qu'est-ce qui pollue l'atmosphère? C'est nos comportements. C'est l'utilisation abusive des moyens de locomotion. C'est le fait de jeter les ordures dans les rues. C'est le fait de ne pas respecter les normes environnementales. Et qui est à la base de ça? C'est la population, c'est nous, les Ivoiriens. Le gouvernement a légiféré dans chaque cas pour indiquer des normes. Il nous appartient, nous, Ivoiriens, de respecter ces normes. Nous voulons de publier un nouveau code de l'environnement qui indique un certain nombre de normes à respecter. Nous allons diffuser largement ce code, mais il va appartenir à chaque Ivoirien de faire en sorte que ces normes soient respectées. Je prends un seul exemple. Il y a des normes de sonorisation qui ont été dictées par le gouvernement depuis bien longtemps. Mais combien sommes-nous dans nos quartiers à respecter ces normes? Il y a des normes pour installer des industries. Combien sommes-nous à respecter ces normes? À prendre les dispositions pour que ces normes soient respectées. Le gouvernement fait sa part en légiférant, mais il appartient aux Ivoiriens de respecter ces normes. Donc il est question que chacun puisse surveiller son comportement, avoir un comportement éco-citoyen.
Vous écoutez le ministre Jacques Assaoré Konan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. En santé, depuis quelques jours, les produits dénommés Atouté et Lapek Onyomousso Yako et ses dérivés présentés comme des aphrodisiaques naturels à base de plantes sont interdits à la fabrication et à la commercialisation. Ainsi en a décidé l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, l'AIRP, qui, dans un communiqué le 11 avril dernier, indique que ces potions buvables, contrairement à leur qualité de produits naturels, contient plutôt du sildénafil, un produit chimique médicamenteux indiqué dans la prise en charge des troubles de l'érection. Sur les raisons et les implications de cette décision, écoutons Dr Nguessan Bosson Jean-Marie, le sous-directeur de l'inspection de la surveillance du marché pharmaceutique à l'AIRP.
Le sildénafil, c'est un médicament qui est issu de la synthèse chimique. C'est-à-dire que dans la production des médicaments, on est arrivé à formuler ça de façon chimique.
Alors, cette substance, donc le sildénafil que vous citez dans ce communiqué, en quoi cette substance est incriminée?
Alors, ce n'est pas le sildénafil lui-même qui est incriminé, mais ce sont les produits Atouté et Lapek. Ici, le problème, c'est que je dis, je fabrique un médicament à base de plantes. Or, quand nous faisons un contrôle qualité dans le cadre de la surveillance du marché pharmaceutique, les résultats nous montrent qu'il y a des substances chimiques, notamment le sildénafil. Cette substance chimique n'est pas issue de plantes, mais issue d'une synthèse. Cela veut dire qu'on a introduit de façon volontaire dans ces préparations un autre médicament qui est issu de la chimie et qui n'est pas une plante. Ces produits Atouté et Lapek, qui se disent être fabriqués à base de plantes, et donc ce sont des produits naturels, contiennent une substance chimique, en l'occurrence ici le sildénafil. Donc ce n'est pas le sildénafil qui est incriminé. Il faudrait qu'on le comprenne. Le sildénafil étant donc un médicament qui se trouve régulièrement enregistré en Côte d'Ivoire et donc se trouve dans les officines de pharmacie sous différents noms. Le problème, c'est parce que, étant une substance chimique, il ne devrait pas se retrouver dans ces produits dits à base de plantes.
Docteur Nguessan Bosson, Jean-Marie, sous-directeur de l'inspection de la surveillance du marché pharmaceutique à l'AIRP, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Il était en ligne avec Jean-Claude Decomé. Les journalistes de la presse papier et numérique ont été instruits sur la notion de présomption d'innocence. C'était au cours d'une session de renforcement des capacités organisée par l'autorité nationale de la presse le 11 avril dernier. Placée sous le thème « Journaliste, comment concilier le droit du public à l'information et le respect du droit à la présomption d'innocence ?» Les participants ont été invités à plus d'attention sur la question pendant la production de leurs contenus éditoriaux, selon le président de l'institution, Kone Samba, qu'on écoute.
Il s'agit évidemment de la 27e session de l'ANP Académie, qui est une activité de renforcement des capacités des journalistes. Et cette 27e session a porté sur le droit des citoyens à la présomption d'innocence, mais comment amener les journalistes à produire les contenus éditoriaux tout en préservant le droit du citoyen à l'information et la présomption d'innocence est un droit pour les citoyens. Cette session a été animée par deux experts, à savoir un juriste, un avocat, Maître Kone Degoumé, et puis un journaliste professionnel, M. Raphaël Lacpé, l'ancien président de l'ANP. Ce qu'on souhaite que les journalistes aient retenu, c'est qu'ils évitent tout de suite de qualifier ou de taxer ceux qui sont interpellés par la police, par la gendarmerie. Dès l'instant où un individu est interpellé, on voit souvent dans les titres des journaux un bandit, un dealer, un braqueur, alors que ces individus interpellés ont leur vie privée à préserver et ont le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'ils soient jugés et condamnés par un tribunal. Donc on ne peut pas les qualifier de bandits, de braqueurs, de dealers, et que sais-je encore, tant qu'ils n'ont pas été jugés. Donc c'est le message qui a été passé par le juriste, Maître Degoumé, et puis M. Raphaël Lacpé est revenu sur les manquements, parce que c'est assez récurrent au niveau de l'ANP. Nous relevons souvent ces manquements-là, surtout dans le traitement des faits divers.
C'était le président de l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, Kone Samba. En page internationale, la question du franc CFA refait surface au Sénégal après la prise du pouvoir du duo Diomaye Faye Ousmane Sonko. Pour l'économiste sénégalais professeur Al-Mounir Ndiaye, loin de rompre les amarres avec la France, la question de battre monnaie est fondamentale pour le Sénégal afin de prendre son envol vers la souveraineté et le développement. Nous écoutons ses explications.
La dépendance monétaire ne nous a pas permis quand même de tirer notre épingle du jeu sur le plan économique. La garantie, c'est bien, nous remercions les Français, mais aujourd'hui, il est venu temps de mettre un terme à tout cela. Maintenant, ce que dit Ousmane Sonko, ce n'est pas ce que le procès qu'on est en train de faire pour chercher des problèmes avec la France ou avec les Occidentaux. Loin de là, l'idée de Ousmane Sonko. L'idée de Ousmane Sonko aujourd'hui et du président Bassirou Diomaye Faye, c'est de tirer les leçons du passé et de trouver la meilleure formule qui permettra aux pays africains de tirer les épingles du jeu sur le plan économique, de régler le problème de pauvreté, de chômage et de régler le problème de déficit sur le plan international. La monnaie qui est évoquée ici au Sénégal, ce n'est pas une monnaie nationale prioritairement. C'est vrai qu'il est prévu que si les processus et les mécanismes ou bien les procédures, les actions qui sont menées pour mettre en œuvre la monnaie CDAO n'aboutissent pas, libre au Sénégal dans un futur peut-être proche ou lointain de penser à une monnaie nationale. Mais Ousmane Sonko a fait la précision. Nous n'envisageons pas au Sénégal pour le moment une monnaie nationale. Ce qui est envisagé, c'est de faire tout pour que la monnaie éco qui est envisagée dans le cadre de la CDAO, même si on trouve une autre formule, soit parachevée et que les pays africains puissent avoir le coup de franche pour pouvoir décider sur le plan monétaire et asseoir un système bancaire qui pourra permettre au secteur privé africain de trouver des leviers financiers pour maîtriser la logistique, la finance internationale et de se développer.
Professeur Al-Mounir Ndiaye, économiste sénégalais. Et comme nous le vous disions en titre, nous retrouvons Jean-Mélène Bitti qui s'est chargé aujourd'hui de parcourir pour vous les unes des quotidiens ivoiriens parus ce lundi. C'est dans la revue des titres. Bonjour Jean-Mélène.
Bonjour Linda, bonjour à tous. L'ouverture du Massa 2024 est à la une de votre revue de titres de ce jour. Sur ce sujet, le journal gouvernemental Fraternité Matin écrit « Massa 2024, Abidjan bouillonne depuis samedi, 168 heures de spectacles, d'échanges et de business ». Il est suivi par Le Matin qui affiche « Beugré Mambé à l'ouverture du Massa, la culture, la danse, le spectacle, c'est pour les gens de génie ». La nouvelle alliance barre à sa une art et spectacle, le Massa 2024 lance l'avenir à son niveau lui consacre sa grande une à cet événement. On peut lire lancement 13e édition du Massa, Abidjan, la capitale africaine de la culture. Les journaux de ce jour sont revenus sur la sortie de Laurent Gbagbo concernant sa candidature pour 2025. À ce propos, Soir Info lui revient sur la date arrêtée par le PPACI pour l'investiture de Gbagbo pour la présidentielle de 2025. La voix originale quotidien proche du parti de Laurent Gbagbo lui est plus précis sur la date. Il met à sa une: tout se clarifie pour la présidentielle de 2025. Le candidat Gbagbo sera investi officiellement le 10 mai 2024. A le temps de dire validation du 10 mai pour la convention du PPACI, Gbagbo a ses militants. Notre lutte, c'est pour gagner la présidentielle. Dans le même temps, la nouvelle alliance nous informe que le PPACI appelle ses militants à rester debout. Contrairement aux autres journaux, le mandat lui s'intéresse au dessous de l'investiture annoncée de Gbagbo. Le Jour Plus lui donne la position du RHDP sur la candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2025. À côté de ces faits d'actualité, Génération Nouvelle nous apprend l'amorce de la normalisation des relations entre le chef de l'État et le leader du GPS, Ouattara Soro. Le début de la réconciliation dérange des cadres du RHDP. Le débat sur la dette ivoirienne est toujours à la une de l'actualité. À ce sujet, le ministre Sanogo Moussa fait savoir dans Soir Info que le niveau de risque de surendettement est jugé modéré. Sur le même sujet, Le Matin écrit: Moussa Sanogo, la Côte d'Ivoire n'a pas de souci avec sa dette. En sport, le journal Super Sport nous apprend que le défenseur des éléphants de Côte d'Ivoire, Evan Indica, a été victime en club d'un malaise. Quant à Sébastien Haller, la série noire continue pour lui. Il s'est encore blessé en Bundesliga lors de la 29e journée. En fait divers, Soir Info révèle de passage à Abidjan un haut cadre de l'administration retrouvé mort dans un hôtel à Yopougon. Tout en exprimant notre compassion aux confrères, le Jour Plus, dont le siège a été cambriolé. Nous vous disons merci à vos kiosques à journaux et bonne lecture.
Merci à vous également, Jean-Mélène Betty, pour cette revue des titres. Vous serez dans l'édition de 8h également pour le même exercice. Place à présent à l'invité de la rédaction avec Jean-Claude Comé, professeur Bamba Abdoulaye, enseignant en histoire des relations internationales, explique les implications du nouveau conflit entre Israël et l'Iran qui a lancé le week-end dernier plus de 300 drones et missiles contre le territoire israélien. Une attaque en représailles à une frappe israélienne contre son consulat en Syrie. Un entretien à suivre maintenant.
Professeur Bamba Abdoulaye, bonjour.
Bonjour.
À peine les armes commencent à se taire dans le cadre du conflit Hamas et l'État d'Israël, il y a encore un autre front qui s'ouvre entre l'Israël et l'Iran. Est-ce que c'était une situation qui était prévisible?
Oui, pour l'observateur de la situation au Moyen-Orient dans la région depuis le 7 mars, ce n'est pas une surprise. C'est encore moins une surprise lorsque le 1er avril, Israël s'est attaqué aux intérêts iraniens en Syrie. Donc, on s'attendait évidemment à une riposte de la part de l'Iran pour deux ou trois raisons. La première raison, montrer aux alliés d'Israël que l'Iran ne reculera pas. La deuxième, montrer même à la population iranienne que le pays a les moyens de se défendre et de riposter en cas d'attaque. Donc pour toutes ces raisons, l'observateur n'est pas du tout surpris de ce qui est arrivé.
Vous parliez donc de cette attaque du consulat iranien en Syrie. Rappel donc des faits, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, Israël estime que la Syrie est devenue une base arrière pour l'Iran et que l'Iran est en train de mettre en place tout un dispositif militaire. Et donc, se sentant un peu en insécurité, Israël a attaqué le consulat iranien en Syrie, faisant plusieurs morts et des destructions de matériel. Et naturellement, l'Iran estime qu'il fallait riposter, montrer également à Israël sa capacité de riposter.
Alors justement, plusieurs drones sont lancés à l'endroit d'Israël, des drones qui ont été interceptés. Alors, pour mieux comprendre cette inimitié entre ces deux pays-là, pourquoi Israël et l'Iran ne s'entendent pas?
Alors, il faut remonter un peu dans l'histoire. Depuis la révolution iranienne, l'Iran a été présenté comme un ennemi farouche d'Israël. Et il faut aussi dire honnêtement que les autorités iraniennes ne s'en sont pas cachées, puisque un des présidents iraniens avait annoncé que tôt ou tard, Israël disparaîtrait de la carte du monde. Donc, une telle déclaration, forcément, n'est pas du goût d'Israël. Mais en même temps aussi, la posture d'Israël vis-à-vis de la Palestine, du Hezbollah et de la Syrie surtout, qui bénéficie du soutien de l'Iran, a aussi envenimé la situation. Et les derniers événements depuis le 7 octobre, avec plus de 30 000 morts du côté palestinien, constituent un ensemble d'éléments qui sont venus donc envenimer cette animosité qui a toujours existé entre les États. Mais je précise que c'est la première fois que l'Iran intervient directement comme ça sur le sol israélien.
Dans cette attaque, l'Israël a le soutien des pays comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et bien d'autres puissance. Alors, pourquoi cette position affichée, justement, de ces pays?
Depuis la création de l'État d'Israël, Israël a toujours bénéficié du soutien de ces pays, notamment les États-Unis. Et même lors du conflit avec le Hamas depuis le 7 octobre, on a vu que ces puissances-là ont soufflé les choses de froid. Tantôt, elles ont soutenu ouvertement Israël, elles ont défendu son droit à se défendre. Tantôt, elles ont demandé à Israël de faire attention, de réduire au maximum de destruction. Mais elles ont tous été des soutiens à Israël, et ça, elles ne sont jamais cachées à ce niveau-là. Ce qui maintenant est intéressant à analyser, c'est quelle va être la suite qui va être donnée donc à cette réaction iranienne.
Justement, les autorités israéliennes laissent entendre une riposte, hein, et en réponse aussi, les autorités iraniennes menacent d'aller crescendo donc dans cette attaque. Est-ce que tout cela n'est pas de nature à encore créer une situation plus conflictuelle dans cette zone, si elle n'est pas déjà conflictuelle?
Elle l'est déjà, et elle va gagner en intensité si effectivement Israël décide de riposter. Et là, c'est à ce niveau que la médiation au niveau de la communauté internationale, et surtout au niveau des alliés, va compter. Je vais comprendre à Israël la nécessité de ne pas réagir, mais je ne crois pas que Benjamin Netanyahou puisse accepter cela. Mais en toute cette cause, on est dans une situation de déflagration, et donc l'ONU, tous ceux qui veulent intervenir pour trouver une solution pacifique à cette situation, là, sont les bienvenus, sinon je crains fort qu'il y ait un embrasement total.
Alors, à côté donc des alliés donc à Israël, il y a une voix qui tente, l'Égypte, d'appeler au calme. Comment vous qualifiez cette position de l'Égypte, hein, qui est un pays arabe?
Alors, vous savez qu'il y a longtemps que l'Égypte s'est démarquée de cette posture radicale vis-à-vis de l'État israélien, ce qui a d'ailleurs permis à l'Égypte de bénéficier du soutien économique des États-Unis depuis plusieurs années. Et donc, l'Égypte a plutôt des rapport très modéré avec Israël, puisqu'il n'y a vraiment plus de contentieux territoriaux entre eux. Donc c'est normal, l'Égypte essaie de devenir un pont entre les deux parties pour trouver une solution, je dirais, pacifique.
Avec ce contexte, faut-il craindre pour l'avenir proche?
Oui, il faut craindre parce que l'Iran est une puissance militaire qui a les moyens pour se défendre, et Israël est une puissance militaire qui bénéficie du soutien des États-Unis et de certaines puissances occidentales. Imaginez donc une opposition. Je ne dirais pas que ce serait une troisième guerre mondiale, mais on n'en serait pas loin.
Professeur Bamba Aboulaye, je vous remercie.
Merci beaucoup à vous et à très bientôt.
À l'instant, l'invité de la rédaction, professeur Bamba Aboulaye, enseignant en histoire des relations internationales à l'université Félix Fouad Boigny d'Abidjan, Cocody. Il répondait aux questions de Jean-Claude Comé. C'est la fin de ce journal, le rappel de l'essentiel. Appréhender les enjeux économiques du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO et formuler des propositions pour la résilience de la Côte d'Ivoire étaient les objectifs d'un forum du Centre d'études prospectives tenu vendredi dernier. En page internationale, il était question de la réforme du franc CFA au Sénégal, où l'économiste sénégalais Al-Mounir Ndiaye explique que battre monnaie est fondamental pour le Sénégal afin de prendre son envol vers la souveraineté. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous à 8h pour une nouvelle édition.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.